Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Et alors, au nom du Père Carré.
Canal Académie vous invite à assister, comme si vous y étiez, à une sympathique réunion de presse dans les locaux de la maison d'édition Le Cerf à Paris, dans le 7e arrondissement. Le co-directeur de cette célèbre maison d'édition, Nicolas Jancède, vient de prendre la parole pour présenter cet événement, la parution du livre intitulé « Vraie lumière, née de vraie nuit », dont les auteurs sont là, devant nous, François Cheng de l'Académie française et l'artiste peintre coréen, père dominicain Kim An-jong. Ce livre se compose de 24 poèmes de François Cheng, illustrés par la reproduction de 8 lithographies originales signées Kim An-jong. L'académicien poète François Cheng prend la parole.
Le père Cheng vient d'évoquer la grande figure du père Carré. En effet, j'ai eu le privilège de participer à la célébration de ses 70 ans de sacerdoce. À ce moment-là, le père Carré, donc c'était avec les pères dominicains, il avait déjà laissé entendre que je devrais créer quelque chose, un peu en souvenir de ce moment de communion extraordinaire. Et entre-temps, comme vous le savez, d'abord j'ai été pris, et après j'ai connu une période d'épreuve physique. Et à l'automne dernier, tout d'un coup, au terme de ces épreuves physique, j'ai connu pratiquement une sorte d'effondrement sur le plan de la santé. Mais juste avant cela, j'ai eu le bonheur, en compagnie du père Cheng, de rencontrer le père Kim, dont je ai admiré le talent depuis toujours. Et à ce moment-là, il avait été question de faire quelque chose ensemble. Et donc, entre-temps, j'ai eu cette période d'enfermement qui a duré presque un an. Et cette plongée en moi-même jusqu'à toucher le fond, comme j'ai pu le dire dans le journal La Croix, le fond de l'abîme. Et puis à partir de là, justement, j'ai l'impression de rejoindre presque la racine de ce qui a été toujours la source de ma vie de quête. Et donc, au lieu d'accepter une sorte de découragement ou presque une sorte de résignation devant mon état de santé, j'ai compris que ces épreuves-là ont été une sorte de bénédiction, c'est-à-dire qui me permet enfin d'envisager mon destin et en même temps d'essayer de dire les choses les plus essentielles. Et surtout, donc j'ai dit que pratiquement à l'époque de Noël, donc à cette époque l'année dernière, tout d'un coup le titre s'était imposé à moi. Hein, donc, « Vraie lumière née de vraie nuit ». Donc à partir de là, en janvier, février, mars, avril, mai, tout en relevant ces problèmes de santé, j'ai consacré mon effort à composer cet ensemble de poèmes. Et la composition de ces poèmes a contribué, comme je l'ai dit, à cette remontée en moi vers une possibilité de vivre. Et là, donc au-delà de l'expérience de souffrance. Au contraire, cette fois-ci, maintenant, c'était une sorte de gratitude et même parfois de félicité de cette sensation de renaître à la vie, à une autre forme de vie. Le vieil homme est mort, mais maintenant, c'est une nouvelle naissance. Et là donc, vous verrez dans ces poèmes, il y a bien sûr des poèmes qui correspondent à cette lamentation d'un homme confronté à la condition tragique de l'homme, et en même temps, il y a cette affirmation de ce qui est donné là. Quand je dis de ce qui est donné là, ça veut dire tout d'un coup, on s'est rendu compte que la vie est un don inouï et non pas un dû, c'est-à-dire un programme à exécuter. Et tout d'un coup, tout ce qui est donné là devient signe. La moindre chose est signe. Une lueur de l'aube qui se dessine entre les rideaux ou une branche qui porte peut-être les dernières fleurs ou bien les premières fleurs, suivant les saisons, et puis la moindre parole, le moindre visage, parce que à partir du printemps, je commençais à sortir, et cette sensation de marcher dans la rue et de rencontrer des visages, c'est une sensation inouïe. Donc, je ne vais pas m'étendre, parce que tout à l'heure, je préfère vous lire deux ou trois poèmes, mais ajoutons ceci, la vie comme don. À cause de cette vision de la vie comme don, l'instant tout d'un coup, chaque instant tout d'un coup prend un relief extraordinaire. Parce que le don se manifeste toujours dans l'instant. Ce n'est pas un état statique qui s'étire en longueur. Ce n'est pas non plus une plate répétition du même. C'est toujours quelque chose d'inattendu et d'inespéré qui est donné là chaque fois. Et c'est de là que j'ai compris. D'ailleurs, je l'ai toujours plus ou moins compris, que l'être, c'est ainsi que l'être advient à nous, se révèle à nous. Parce que l'être est donation, ça je pense qu'on est tous d'accord, mais sa manifestation se fait toujours dans l'instant. L'être advient. Ici, je me rappelle, bien sûr, tout le monde le sait, la phrase que Moïse a reçue du Créateur. Je suis celui qui est, ou bien je suis qui je suis. Cet verbe être, dans notre grammaire, bien sûr, a deux statuts. Il y a le être comme verbe de qualité. Je suis français, je suis poète, je suis peintre, je suis prêtre. Ça, c'est un verbe d'état. Mais on sait que le verbe être est un verbe d'action, c'est-à-dire le acte d'être. Eh bien, bien sûr, nous-mêmes, à chaque instant, nous essayons de faire l'acte d'être, pour essayer d'accéder à la vraie vie, mais l'être lui-même n'a de cesse de faire l'acte d'être. Si cet être, je parle de l'être, ne fait pas l'acte de l'être, le monde ne serait pas et nous ne serions pas. Donc, je suis qui je suis, c'est parce que Dieu n'a de cesse de faire l'acte d'être. Et sa manifestation est toujours dans l'instant. Et donc, c'est à chaque instant que nous devons essayer de faire cet acte de recevoir, parce que l'être est donation, mais pour recevoir la donation, il faut que nous fassions l'effort de recevoir. Je pense que toutes ces choses-là, j'avais toujours plus ou moins compris. Mais cette fois-ci, lors de ces épreuves, lors de cette création de ces poèmes, je me suis rendu à l'évidence de cette vérité. Pour terminer, donc maintenant nous assistons à cet instant privilégié, parce que le vrai instant de donation, c'est toujours une rencontre, hein, rencontre à tous les niveaux, que je sois devant une fleur ou un arbre, et devant un être, et surtout devant un être aimé, et puis avec la transcendance, c'est toujours la rencontre, et ça se trouve chaque fois dans l'instant. Et je dirais même, pour terminer, c'est avec l'instant que nous pouvons rejoindre l'éternité. Parce que l'éternité n'est pas non plus justement cette plate répétition du même, ni un état de fait qui s'étire à n'en plus finir. C'est toujours l'éternité même est faite d'instant. C'est d'instant en instant. Chaque fois que la vie se lance en élan vers la vie, c'est en ce sens que je dis que dès ici et maintenant, chaque instant nous permet de rejoindre l'éternité. Ayant prononcé ce mot, pour le moment, je m'en tiens là.
Nicolas Jancède, co-directeur de la maison d'édition Le Cerf, invite maintenant le public à un jeu de questions-réponses avec François Cheng de l'Académie française.
Est-ce que nous pourrions dire que c'est le même ?
La première intervenante trouve un écho pascalien à la prière poème écrite par François Cheng, ce à quoi le poète va lui répondre.
Bien sûr, devant Pascal, je m'incline. Hein. Est-ce que Pascal a eu cette vision d'un Dieu faible ? C'est-à-dire qu'il a besoin que nous disions un mot. Peut-être si. Si c'est le cas, bien sûr, je rejoins modestement Pascal dans ce pari-là.
Est-ce que Jésus, homme-Dieu, a une place dans votre relation d'homme avec, disons, la divinité ?
Pour ceux qui ont lu ma réponse dans la croix, j'ai dit que j'ai épousé sans réserve la voie christique. Donc, il incarne cette transcendance seule capable de donner une réponse à notre condition tragique. Et c'est aussi seul par cette voie-là que nous pouvons rejoindre le divin.
Vous avez évoqué le nom de Saint François tout à l'heure à propos de l'humus. Est-ce que vous voulez bien nous dire si le nom que vous avez choisi de porter, vous l'avez choisi à cause de Saint François, et quelle est la vénération que vous avez pour ce saint ?
Avec Saint François, la relation n'est pas d'ordre de vénération. C'est un frère. Je suis allé à Assise en 60. Donc, il y a près de 50 ans. À l'époque, Assis n'était pas aussi fréquenté que maintenant. Assis encore avait un aspect un peu champêtre. Il n'y avait pas de route, les routes n'étaient pas goudronnées. On doit monter à Carcheri à pied, à travers un chemin de terre. Et pour aller à Saint-Damien aussi, c'est des chemins de terre, oui. Donc moi, j'ai connu une sorte de bouleversement. Il est entré en moi comme un frère, hein, comme un autre moi-même. Sainteté en moi. Hein,
À la naissance, Avant le bébé crie, il y a un silence. On a vu ça avec naissance de sa petite fille.
On va interroger maintenant François Tcheng sur le silence, le rôle du silence de la naissance à la mort. Le poète répond.
Tout à fait. D'ailleurs, le silence et le cri, bien sûr, d'abord sont solidaires, hein, solidaires et inséparables. La qualité de l'un dépend de la qualité de l'autre, hein, oui. Je vais essayer de dire autre chose, je ne sais pas si finalement ça rejoint cela. Le titre c'est « Vraie lumière née de vraie nuit ». Pourquoi « vraie nuit » ? Parce que justement, à cause du chemin que l'humanité a pris, il y a bien de fausses nuits. Par exemple, maintenant à Paris, il y a des... la nuit des lieux dits de plaisir, éclairés au néon multicolore, où l'homme essaie de se saouler pour s'oublier, quitte à avoir la gueule de bois le lendemain, etc. Donc ça, c'est une fausse nuit. Il y a la nuit des criminels, lesquels profitent de l'obscurité pour commettre leurs actes. Il y a bien sûr la nuit de cristal des nazis éclairée aux torches. Et puis la nuit et brouillard des camps. Donc, vraie nuit. Justement, il y a la nuit des mystiques. On se demande toujours pourquoi tous ces grands mystiques recherche la nuit. Est-ce que parce qu'ils se complaisent dans l'obscurité ou bien fascinés par je ne sais quoi, quelque néant ou anéantissement? Pas du tout. Tous les grands mystiques recherchent la vraie nuit, c'est justement de pouvoir assister à la naissance de la lumière, comme au commencement du monde. C'est-à-dire, les grands mystiques ont la nostalgie de ce moment de la création où tout est donné à la fois. Et donc, il faut bien atteindre la vraie nuit pour assister à la naissance de la vraie lumière. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'instant. En réalité, nous recherchons cet instant de communion, c'est justement pour essayer de revenir au matin du monde, c'est-à-dire assister à ce moment où l'être advient. Or, l'être advient à tout instant, en réalité.
Ce lancement du livre paru aux éditions du Cerf, ce livre intitulé « Vraie lumière, née de vraie nuit », va s'achever par la lecture attendue de trois poèmes, une lecture effectuée par leur propre créateur, François Tcheng, de l'Académie française.
Je vais lire trois poèmes. Je commence par une prière. Cette prière se trouve au milieu du recueil. Comme c'est une prière, je m'adresse et nous nous adressons à une transcendance. Nous voici dans l'abîme. Tu en restes l'énigme. Si tu dis un seul mot, et nous serons sauvés. Tu restes muet encore, jusqu'au bout, semble sourd. Nos cœurs ont trop durci, en nous, l'horreur s'en fond. viendrait-elle de nous une lueur de douceur si nous disons un mot et tu seras sauvé? Nous restons muets encore, jusqu'au bout restons sourds. Te voici dans l'abîme, nous en sommes l'énigme. Tout à l'heure, j'ai dit que, à un moment donné, j'ai touché le fond de l'abîme. Le fond de l'abîme est-il le néant? Pas tout à fait. C'est l'humus. L'humus, c'est le lieu de l'humilité extrême et le lieu de transmutation. Donc le poème s'intitule « S'abaisser jusqu'à l'humus », comme François d'Assise. « S'abaisser jusqu'à l'humus, où se mêlent larmes et rosées, sang versé et sources inviolées, où les corps suppliciés retrouvent la douce argile. » Humus, prêt à recevoir frayeur et douleur, pour que tout ait une fin, et que pourtant rien ne soit perdu. S'abaisser jusqu'à l'humus, où se loge la promesse du souffle originel, unique lieu de transmutation où frayeur et douleur se découvrent paix et silence. Se joignent alors pourris et nourris, ne font qu'un terme et germe, lieu du choix. La voie de mort mène au néant. Le désir de vie mène à la vie. Oui, le miracle a lieu. Pour que tout ait une fin et que pourtant toute fin puisse être naissance. S'abaisser jusqu'à l'humus, consentir à être humus même. Unir la souffrance portée par soi à la souffrance du monde, unir les voix tues aux chants d'oiseaux, les os givrés au vacarme des personnages. Maintenant, le dernier poème qui s'appelle Âme-sœur. Âme-sœur. Une belle expression en français, qu'on ne trouve même pas en italien. C'est ce que m'a dit mon traducteur italien. Âme sœur, bien sûr, chacun dans ce monde cherche l'âme sœur. C'est le désir le plus ardent. Si ardent que ce désir, cet appel à l'âme sœur, rejoint le divin, c'est-à-dire rejoint l'âme divine. Parce que le divin est une âme aussi. Donc, dans ce poème, l'appel à l'âme sœur fait joindre l'amour humain à l'amour divin. Âme sœur, entends-tu ce qui vient de l'heure, ce qui vient du cœur? À l'heure de l'abandon, à l'heure du crève-cœur, ce battement, depuis la naissance, déchirant les entrailles maternelles, déchirant l'écorce terrestre, ce battement qui cherche à se dire, qui cherche à se faire entendre. Entends-tu, âme sœur, ce cri d'avant-vie, plein d'une étrange nostalgie de ce qui avait été rêvé et comme à jamais vécu, matin de brume d'un fleuve, nuage se découvrant feuillage, midi de feu d'un pré, pierre se dévoilant pivoine, toute la terre embrasée, tout le ciel incandescent, en une seule promesse, en une seule invite, ne rate pas le divin, ne rate pas le destin. Entends-tu ce qui vient de la flamme du corps, de la flamme du cœur, à l'heure de l'abandon, à l'heure du crève-cœur. Ce cri surgit un jour, à ton insu, en toi-même, le transparent, le transportant, le transfigurant, seul cri fidèle à l'âme en attente, âme sœur.
Et c'est ainsi que s'achève cette sympathique rencontre autour de la parution du livre édité par les éditions du Cerf, un livre intitulé « Vraie lumière née de vraie nuit » en présence de leurs auteurs, François Cheng de l'Académie française et l'artiste-peintre coréen père dominicain Kim Eun-jong.